rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. En apparence, tout va bien aux Pays-Bas. Le taux de chômage, déjà très faible à 5%, est en baisse. L'inflation est maîtrisée. La production industrielle est en hausse. Et les agences de notation financière créditent l'AE d'un triple A. Pourtant, les Néerlandais, généralement présentés comme très tolérants, s'apprêtent, lors des élections législatives de mercredi prochain, à accorder un grand succès au parti d'extrême droite anti-islam dirigé par Geert Wilders. Que s'est-il passé en quelques années pour que ce pays ouvert sur le monde soit tenté par le protectionnisme et le repli sur soi, et quelles seraient les conséquences d'une victoire de l'extrême droite hollandaise en Europe? Je vous présente les trois invités néerlandais qui nous ont rejoints. Bonjour Christophe de Vogt. Vous êtes écrivain et historien. Votre dernier livre, Histoire des Pays-Bas, des origines à nos jours. Alors, je dis, vous êtes néerlandais.
D'origine.
Vous êtes le plus français des néerlandais ou le plus néerlandais des français. C'est un peu comme on veut.
Je suis un émigré de la troisième génération.
Bon, en fait, quand même, vous parlez le néerlandais parfaitement.
Presque parfaitement.
Kun Damhuis, bonjour. Goeden dag.
Goedendag.
Ah, voilà, c'est quand même difficile, le néerlandais. Pour un français, en tout cas. Vous êtes sociologue et politologue et vous êtes en train de terminer une thèse franco-néerlandaise. Sur quel thème?
C'est exactement ça, c'est en fait une comparaison entre les différentes formes de soutien pour le parti pour la liberté aux Pays-Bas et le Front National en France.
Deux partis qui ont, on va dire, un cousinage, un certain cousinage.
Exactement, ils travaillent ensemble en Europe.
Et notamment au Parlement européen. Peter Gizet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondant à Paris du quotidien De Volkskrant, je ne sais pas si je l'ai bien dit.
Très bien.
Merci. Quel est ce quotidien qui est un grand quotidien néerlandais?
Oui, c'est le plus gros quotidien de qualité des Pays-Bas.
Plutôt à gauche, plutôt à droite?
Ouais, c'est un peu centre-gauche.
Centre-gauche, hein. Oui. Avant de parler de ces élections, dont le résultat va être scruté un peu partout en Europe, j'aimerais que l'on parle un peu des Pays-Bas et des Néerlandais. Tous les pays véhiculent une image, et celle des Pays-Bas est généralement perçue comme positive. Un petit pays par la superficie, un pays commerçant, industriel, Shell et Heineken, pour ne prendre que ces deux exemples, sont des piliers de l'économie internationalement connue. Un pays très ouvert sur le monde, densément peuplé avec 400 habitants au kilomètre carré, qui a domestiqué les éléments en gagnant des territoires sur la mer. Dans l'imaginaire européen, les Néerlandais sont évidemment grands et blonds, ils ont tous une bicyclette et ils sont forcément tolérants. Le cannabis est en vente libre à Amsterdam et le pays a été l'un des premiers au monde à légaliser le mariage pour tous. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité hollandaise au jour le jour, il peut donc être surprenant de découvrir qu'à l'occasion de ces élections qui vont donc se dérouler mercredi, le PVV, le Parti pour la Liberté, parti populiste et d'extrême droite dirigé par Geert Wilders, est donné comme favori par les sondages. Alors, que s'est-il passé? Je vais vous poser la question à tous les trois pour qu'en quelques années, le pays change à ce point. Qui veut commencer? Christophe Devaux, peut-être?
Oh oui, écoutez, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Peut-être aussi, on en discutera, je pense, sur la qualification d'extrême droite pour ce parti, qui d'ailleurs, même question pour le Front National, qui peut-être ne permet pas de rendre compte exactement justement de leur succès. Peut-être parce que justement, ils annexent certains thèmes de la gauche.
On va revenir sur le PVV, mais qu'est-ce qui s'est changé dans l'état d'esprit des Néerlandais?
J'ai envie de vous répondre, comme dans beaucoup de pays, le 11 septembre, finalement, quand on regarde bien les choses, moi j'étais aux Pays-Bas ce jour-là. Je me souviens du véritable choc que ça a provoqué dans la population. Au-delà, ça a été relayé aussi par d'autres chocs, notamment l'assassinat de Pim Fortuyn un an plus tard, enfin en 2002. Ça a été aussi, pour moi, une chose qui m'a beaucoup frappé, un article très important sur le drame multiculturel qui a été sorti en 2000, si je ne me trompe pas, par un grand intellectuel socialiste néerlandais qui s'appelle Paul Schreffer, qui est d'ailleurs très connu en France, sur la crise du modèle d'intégration. Tout ça, c'est, je veux dire, entre 2000 et 2002, on voit le pays basculer. Moi, ça a été mon expérience vécue et sur laquelle, en tant qu'historien, j'ai un peu réfléchi.
Alors, Diamond, c'est vrai que l'immigration, elle est devenue très importante aux Pays-Bas. Je parle plutôt de l'immigration extra-européenne. C'est environ 12% de la population néerlandaise. C'est une explication de ce changement d'état d'esprit chez les Néerlandais.
Comme dit Christophe de Vogt, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais bien même peut-être un peu plus tôt. Il y a déjà des sondages des années 90 qui montrent qu'il y a une grande partie de la population qui avait ces questions par rapport à l'intégration et à l'immigration. Et c'est Fortuyn, évidemment.
Pim Fortuyn.
Pim Fortuyn, qui en 2001, 2002...
Un leader politique, je ne sais pas si on peut dire des
comète, une comète politique ouais. Qui, après le 11 septembre 2001, a su attirer énormément de votes d'un coup. En fait, il n'était pas sur la scène politique avant et qui a vraiment choqué les partis établis.
Ça a été soudain une nouvelle offre politique.
Exactement. Donc,
alors c'est vrai que Peter Gerson, qu'on peut imaginer, on peut trouver dans une même rue à Amsterdam, peut-être plus qu'à La Haye, un couple homosexuel qui se tient la main et une femme en burqa, c'est un peu évidemment le choc des images et des cultures et ça pose un problème, Peter Gerson.
Oui, il y a un problème avec les homosexuels parce qu'ils se sentent menacés par. Surtout par des jeunes immigrants d'origine maghrébine surtout, et ils pensent que la liberté qui allait de soi pour longtemps depuis les années 80 je pense, que cette liberté est menacée maintenant par le flux de migrants qui continue. Il y avait des sondages de l'année 70. À l'époque, 40% des Néerlandais ont dit les étrangers sont le sujet, le problème le plus important des Pays-Bas. Mais à l'époque, c'était vraiment un tabou. Et c'était surtout parce que les Pays-Bas est le pays où la proportion la plus élevée de Juifs a été déportée dans la Seconde Guerre mondiale.
Et donc il y avait l'idée que le pays devait en contrepartie être très ouvert sur le monde et donc il y a eu cette image de très grande tolérance des Néerlandais qui est née à cette époque en contrepartie.
Et à l'époque il y avait une sorte de leadership de classe populaire de parti travailliste qui était internationaliste, assez tolérant.
Et ça a changé. Et
ça a disparu complètement.
Alors, vous le disiez les uns les autres, ce changement, il ne date pas d'aujourd'hui, il faut remonter 20-25 ans, et ce que vous disiez, Kuhn, ou certains autres, c'est que le personnel politique a été surpris de ce changement d'état d'esprit et ne l'a pas appréhendé, n'a pas su percevoir ce changement d'état d'esprit des Néerlandais, Christophe de Vogt.
Ben, j'ai envie de vous dire, toute ressemblance avec un autre pays que vous connaissez bien, n'est-ce pas, serait de pur hasard, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a eu, moi, ça m'a beaucoup frappé aussi à l'époque, dans la classe, on va dire, politico-médiatique néerlandaise, on a eu pendant très longtemps un phénomène de déni vis-à-vis de à la fois des problèmes du pays et à la fois aussi de la réaction dans la population. Je me souviens très bien qu'on a dit « Oh, mais tout ça va passer ». Combien de fois j'ai entendu dire « Oh, mais Fortuyn, d'ailleurs, il est mort, et Wilders, ça va durer 6 mois ». Ça fait 15 ans. Donc, il y a bien un phénomène plus profond. Et cette attitude de on va dire de déni, de politiquement correct, comme voulait dire Peter, a disparu maintenant. Ça, on peut le dire, dans tous les partis, ce qui n'est pas le cas de la France, dans tous les partis, c'est frappant dans les programmes, même à gauche, hein, même à gauche. Je dirais la grande euphorie multiculturelle, internationaliste, a disparu. Ça, c'est très intéressant à suivre. Même dans le parti le plus important, qui reste le parti le plus important, on y reviendra, le Parti libéral, qui est au pouvoir aujourd'hui et qui sera sans doute au pouvoir demain. On y reviendra. On voit une attitude extrêmement stricte, pour ne pas dire mais inconcevable en France, dans un parti de gouvernement, vis-à-vis par exemple du droit d'asile.
Alors, l'homme politique néerlandais le plus connu, ce n'est pas le premier ministre que vous évoquez, Christophe de Vogt, il s'appelle Mark Rutte, mais il n'est pas si connu que ça. C'est un conservateur libéral et son parti s'appelle le VVD, le Parti Populaire pour la Liberté et la Démocratie. Non, l'homme politique le plus connu à l'étranger, c'est Geert Wilders, le leader du parti alors populiste ou d'extrême droite, qui siège aux côtés de Marine Le Pen au Parlement européen. Alors, qui est ce Geert Wilders, d'où vient-il?
Il vient précisément du VVD. Il a quitté les partis en 2004.
Donc le Parti libéral.
Le Parti libéral, conservateur libéral, exactement. Et pour fonder son propre parti.
Qui s'appelle le PVV, et donc c'est toujours un peu compliqué les anagrammes.
Hein, oui, exactement, oui, c'est ça.
C'est ça. Et alors, il vient de ce parti, mais qui est-il? Alors, on dit toujours blond peroxydé, il est assez étonnant d'une façon générale, certaine façon.
Il est surtout très, très préoccupé par l'islam, la question de l'islam aux Pays-Bas. C'est ça sa motivation principale, j'ai l'impression. Il le dit aussi dans des interviews, dans les médias, etc. C'est ce qui lui motive le plus pour agir politiquement, quoi.
Et alors, sur ce plan-là, il est très radical, car il est pour l'interdiction des mosquées, l'interdiction du Coran. Mmh. Il est extrêmement radical, peut-être même plus encore que ne l'est Marine Le Pen ici en France. Mmh. Vous nous avez expliqué qu'il était un dissident du Parti libéral. Comment se fait-il que son parti se soit hissé si haut, puisqu'il est, les sondages le disent en tout cas, s'il n'est pas le premier parti, mm-hmm. son parti sera le deuxième, en tout cas il sera en tête de ces élections néerlandaises. Ces thèmes sont uniquement l'anti-islam ou il va au-delà?
Justement, la force, je pense, du PLV, c'est qu'il propose beaucoup de choses différentes à des groupes différents dans la société. Donc, comme le disait un peu, si déjà, Christophe Tovor tout à l'heure, c'est pas que l'islam ou juste un thème, en fait, quand on regarde même le programme qui fait une feuille. Le
programme, une feuille à quatre.
À quatre, ouais, exactement. Oui, c'est ça. Il y a 11 points dessus et c'est quand même c'est très différent en fait. Il y a des thèmes très traditionnellement de gauche par rapport par exemple au loyer, au l'âge de la retraite, par rapport à la santé, etc. Puis il veut aussi baisser les taxes. Il y a des thèmes sur la, enfin des il mentionne la sécurité, etc. Donc ça lui permet de ratisser très large dans la société. C'est ça qui fait la force.
Si on est à gauche, on peut trouver des éléments très très favorables, enfin qui peuvent plaire. Si on est libéral à droite, on peut aussi trouver la baisse des impôts, ça plaît toujours. Et puis si on est anti-islam, évidemment, il répond parfaitement à ces demandes. C'est un genre de parti attrape tout, Peter Gison, le parti de Geert Wilders.
Oui, je pense que Wilders est très à droite initialement, mais je pense qu'il a vu, surtout en Danemark, Dansk Folkeparti, qui était économiquement très à gauche. Et il a rendu compte que c'était une proposition très bonne pour son électorat, parce que sont surtout les ouvriers, les employés. Le programme politique à gauche leur parle beaucoup. En même temps, je pense que, comme en France, l'immigration, l'islam, l'identité est vraiment le sujet majeur.
Alors justement, qui sont les électeurs, Christophe De Voet, de Geert Wilders? Qui sont-ils?
Là, je serais plutôt répondre Koen là-dessus, mais je voudrais dire oui, justement, je crois que c'est très important, parce que là, la comparaison avec Marine Le Pen fonctionne bien, c'est-à-dire des thèmes d'extrême droite, des thèmes et des thèmes de gauche, sur le plan social, hein, notamment cette mesure phare, l'abaissement de l'âge de la retraite, qu'on retrouve dans les deux programmes.
Oui, qui était à 67 ans aujourd'hui. Elle est en train de passer à 67 ans.
Toute chose étant égale par ailleurs, parce qu'aux Pays-Bas, elle est à 67 ans, donc il veut revenir à 65 ans. Mais c'est gauchiste aux Pays-Bas, ça. Bon, vous imaginez en France ce genre de situation. Mais voyez, là, c'est vraiment un thème qui identifie bien un appel à gauche, on va dire. Alors là où il est aussi, on oublie d'en parler, mais c'est important à Carrefour de l'Europe, c'est qu'il veut sortir de l'euro et de l'Europe. Et qu'il a été, il a devancé Marine Le Pen sur ce thème, puisqu'il a utilisé ce slogan dès les précédentes élections, sortir déjà de l'Europe et de l'euro. Marine Le Pen, elle, vient d'arriver avec cet agenda pour cette élection présidentielle. Enfin, elle est arrivée pour les élections européennes, exactement. Et là, ça va être très intéressant parce que sur cette question, je crois d'ailleurs que dans les deux pays, c'est là qu'ils se heurtent à la plus grande résistance, car on a, j'ai les résultats de l'eurobaromètre, mais on a une adhésion majoritaire, ultra-majoritaire en France et aux Pays-Bas, encore plus aux Pays-Bas, à l'euro. Donc c'est là peut-être qu'on va trouver, les deux partis peuvent trouver leurs limites, c'est-à-dire la politique économique.
Alors, les électeurs de Geert Wilders, Koen Damoijs, qui sont-ils? Ils ratissent très très large, les jeunes, les vieux.
Donc voilà, j'ai fait un tour aux Pays-Bas, en fait. J'ai parlé avec 64 personnes, et le nord, le sud, l'est, l'ouest, les gens dans les...
64, interviews très approfondies.
Hein. Très approfondies, voilà, 2h30, 3h...
À chaque fois.
En moyenne, oui, c'est ça. Parfois 6-7 heures, quoi. Donc c'est vraiment, c'était très approfondi. Mais c'était la diversité, surtout, qui m'a frappé. Des gens sans travail, des gens qui avaient avec leur propre entreprise, des ouvriers, il y avait des gens très aisés, avec des niveaux d'éducation très, très élevés, et beaucoup de gens qui n'ont pas fini l'école, etc. Donc c'était très divers, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. On voit un développement, j'ai l'impression, quand même, d'une hétérogénéité, une diversité agrandissante. Et c'est logique aussi, parce que plus l'électorat ou le conglomérat, si on veut, d'un parti s'élargit, plus divers devient-il. Donc c'est ça qui est aussi par rapport au futur intéressant de prendre en compte, quoi. Comme en France aussi. Hein.
Il y a un registre très large. Oui. Alors toutefois sur le créneau des leaders d'extrême droite, Geert Wilders est loin d'avoir le monopole. Et pour en savoir un peu plus, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Judith Sininge.
Bonjour Daniel.
Vous êtes vous aussi néerlandaise et dans le numéro de Courrier International actuellement en kiosque, vous avez repris un papier du, alors je vais essayer de le dire, du Het Financieel Dagblad, consacré à un certain Thierry Baudet, qui a un nom très français.
Oui, absolument, Daniel. Il est de descendance française, d'où son nom français, mais il est purement hollandais, en effet, Thierry Baudet. Et c'est le dirigeant un peu dandy d'un nouveau parti qui s'appelle le Forum pour la démocratie. C'est pas le seul concurrent sur le flanc de droite comme Geert Wilders, parce qu'il y a plusieurs petits partis de droite qui se présentent aux élections avec un programme un peu similaire. Donc très anti-UE et très anti-immigration. On peut donc le lire sur Thierry Baudet dans un article du Financieel Dagblad, c'est le quotidien financier des Pays-Bas. Et la différence avec Wilders, c'est que Thierry Baudet, c'est déjà, il est beaucoup plus jeune, il a 34 ans, mais c'est un universitaire, il est historien et juriste. Il a déjà écrit plusieurs livres, il joue beaucoup sur cette image d'académique. Et le journaliste du Financieel Dagblad, il fait même le parallèle avec Pim Fortuyn en 2002, comme Fortuyn, Baudet, c'est un peu un mélange entre un élitisme érudit et le populisme. Donc il se présente comme un populiste éclairé, alors que Wilders, il représente plutôt un populisme plus populaire, plus dur, moins nuancé que Baudet.
Alors là, c'est pour la forme, on voit bien la différence entre les deux hommes, mais sur le plan idéologique, est-ce qu'il y a quelque chose qui les différencie ou pas ?
Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans leur programme. Ils sont très hostiles à l'immigration, très hostiles à l'UE. Thierry Baudet, il trouve que les Pays-Bas ont perdu leur souveraineté à cause de l'Union européenne. Il veut surtout sortir les Pays-Bas de la zone euro. Il veut organiser un référendum pour cela. Mais Baudet, il va quand même beaucoup moins loin dans certains domaines comme la religion, par exemple. Wilders, il souhaite interdire le Coran, les écoles islamiques. Baudet n'est pas du tout en faveur de ça. Donc là, il est quand même bien plus nuancé que Geert Wilders.
Alors, des similitudes et des différences, mais est-ce qu'il a une chance d'avoir quelques députés à l'issue de ces élections ?
Alors Thierry Baudet lui-même, il dit qu'il va créer la surprise, évidemment, mais selon les sondages, il pourrait obtenir entre 1 et 2 sièges, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà pas mal pour un petit parti qui vient d'arriver, et puis c'est très révélateur de deux choses aux Pays-Bas. Premièrement, c'est révélateur de la fragmentation du paysage politique, hein, il y a 28 partis qui se présentent, et deuxièmement, c'est révélateur du courant anti-européen qui souffle dans le pays.
Merci Judith, Courrier International avec à la une ce titre, qui veut la peau de l'Europe. Et bien sûr, parmi ceux qui veulent la peau de l'Europe, il y a Thierry Baudet. Est-ce qu'on peut dire, Christophe Devoet, que Geert Wilders d'un côté, Thierry Baudet de l'autre, ont donné le là de la campagne, le thème de la campagne, et que tous les autres partis sont obligés d'en tenir compte? Je pense par exemple à la campagne des thèmes de campagne qu'aborde Mark Rutte, l'actuel Premier ministre, le leader du Parti libéral conservateur.
Je crois que c'est très intéressant. Je connais un petit peu le personnage qui est, c'est vrai, un universitaire, c'est vrai qu'il est jeune, mais c'est aussi un peu une icône. C'est un petit peu on est quand même dans un temps médiatique. Il se présente.
Il est très dandy, hein, toujours très bien habillé.
Très dandy. Je vous signale aussi que c'est, dans sa génération, un des très rares hommes politiques qui parle couramment français, même s'il n'est pas d'origine française. Là, je corrige un peu. Il est simplement d'une famille extrêmement francophile, une famille d'historiens néerlandais, extrêmement francophile, où on donne un prénom français de tradition, toujours aux enfants. Alors c'est en effet un intellectuel réputé qui a un certain écho dans le monde universitaire. Ça aussi c'est une nouveauté par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire que le monde universitaire n'est plus automatiquement de gauche et il est donc un petit peu, on va dire, le souverainisme intellectuel. Alors lui-même d'ailleurs connaît très bien les auteurs français. C'est Zemmour moins l'anti-islamisme, on va dire. Et là, l'interview était très juste, puisque lui, son idée, c'est de promouvoir, Thierry Baudet, la possibilité d'un islam libéral aux Pays-Bas. Donc, il est moins sur des positions, très anti-musulmanes que Wilders ou que Zemmour en France.
Alors, est-ce qu'il est susceptible, ce Thierry Baudet, d'avoir des sièges ? Alors, nous allons voir ça dans la deuxième partie de l'émission, parce que le système électoral néerlandais, il est absolument pas comme le système français, à la fois plus simple et plus compliqué. En tout cas, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Actualité santé.
Treff.Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous parlons des Pays-Bas. Et en apparence, tout va bien au pays des tulipes et du fromage. Le taux de chômage, déjà très faible à 5%, est en baisse. L'inflation est maîtrisée. La production industrielle est en hausse. Et les agences de notation financière créditent la haie d'un triple A. Pourtant, les Néerlandais, généralement présentés comme très tolérants, s'apprêtent lors des élections législatives de mercredi prochain à accorder un grand succès au parti d'extrême droite anti-islam dirigé par Geert Wilders. Alors que s'est-il passé en quelques années pour que ce pays ouvert sur le monde soit tenté par le protectionnisme et le repli sur soi, et quelles seraient bien sûr les conséquences d'une victoire de l'extrême droite hollandaise en Europe? Je vous représente les trois invités néerlandais qui nous ont rejoints au Carrefour de l'Europe. Christophe de Vogt, il est écrivain et historien des Pays-Bas, il est franco-néerlandais. Cam Damois, il est sociologue et politologue, et Peter Giesen est correspondant à Paris du quotidien De Volkskrant. Alors dans cette campagne, un petit moment d'humour toutefois, avec une émission de télévision qui a lancé une application mobile pour les téléphones avec laquelle on peut adopter un homme politique, évidemment virtuel, mais une fois adopté, évidemment, il faut s'en occuper, le nourrir, le chérir, sinon il meurt un peu à la manière des Tamagotchi, Maria Fonso.
Cette application présente les politiques sous la forme de petits avatars à l'état de Tamagotchi, les célèbres animaux virtuels japonais des années 90. Son nom, Kamergoshi, qui est la contraction de Tamagotchi et de Tweedkamer, la chambre basse du Parlement néerlandais. Attention, dans ce jeu, on ne choisit pas son candidat. Au départ, c'est un œuf impersonnel, il est clos, et voilà, le Kamergoshi à éduquer. Une fois la bête politique reçue en pension sur son smartphone, il faut l'assumer ou pas. La mission est simple, garder son chef de parti en vie aussi longtemps que possible. Mais cela demande une attention de tous les instants. Il faut nourrir l'élu, lui exprimer de l'affection, par exemple en le caressant, le soutenir avec des encouragements, sinon on peut aussi l'abandonner. Si on oublie de nourrir son animal politique pendant 24 heures, il meurt. Maintenir en vie son Kamergoshi jusqu'aux élections qui auront lieu mercredi prochain n'est pas de tout repos. Extrait de l'émission.
Est-ce que tu veux prendre soin d'un parlementaire? Maintenant, tu as la possibilité avec le Kamergoshi, un cadeau sous forme de surprise politique pour les jeunes de 7 à 77 ans.
Ah mince, moi j'ai un crawl. Il veut que je prenne soin de lui.
Kamergoshi, tout le monde l'utilise, à la haie comme à Sochi. Maintiens-le en vie jusqu'à la fin de la campagne. Cela fait fureur, comme le yo-yo à l'époque. Insatisfait? Laisse-le mourir. Et tu en auras un nouveau automatiquement.
Les 17 personnages Kamergoshi sont issus de l'un des 17 plus gros partis des Pays-Bas en compétition pour ces élections. On y retrouve Geert Wilders, le leader de l'extrême droite, et Mark Rutte, le premier ministre, mais aussi d'autres moins connus. L'application est mise à jour en fonction de leur actualité politique. Le joueur reçoit donc des messages liés, par exemple, aux dernières déclarations de son Kamergoshi. Ceux qui se seront le mieux occupés de leur bête politique virtuelle recevront des invitations pour assister à l'émission.
Alors, Ken, est-ce que vous avez adopté, vous aussi, un Kamergoshi?
Non, pas
non, Christophe.
Non, l'application, je n'ai pas sur mon portable français.
Et Peter? Non. Aucun Kamergoshi. Alors, il faut dire quand même un petit mot sur le système électoral néerlandais. D'abord, il y a beaucoup de partis. Il y a 28 partis qui concourent, qui espèrent avoir des députés. Au départ, ils étaient presque 80 candidats. Ils n'ont pas pu finalement tous se présenter, mais 28, c'est considérable. Alors, il y a des partis assez exotiques, hein. Il y a, évidemment, des partis de gauche, de droite, d'extrême droite, on l'a vu, des partis d'extrême gauche. Et puis, alors, des partis assez exotiques, je pense par mot, au parti des animaux, le parti, un parti qui s'appelle Niet Stemmers, c'est quoi ce parti?
C'est le parti pour les gens qui votent pas. Donc la seule promesse politique qu'ils font, c'est qu'ils vont jamais voter dans l'Assemblée.
Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi le parti de Jésus vit, Peter Giesen.
Ah, je ne connais pas.
Vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez. Et puis, il y en a d'autres encore. Il y a évidemment un parti aussi intéressant, original, tout nouveau sur la scène politique, qui s'appelle Denk. Quel est ce parti qui s'appelle Denk, qui est évidemment, on va le comprendre, un peu en opposition au parti de Geert Wilders, qui veut rebondir, Peter Giesen?
Oui, c'est une partie de deux membres de l'Assemblée d'origine turque qui étaient dans la partie travailliste et qui se sont séparés du parti. Ils sont vraiment dans un discours d'émancipation des immigrés.
Et en même temps très communautaire ou pas?
Oui, c'est très communautaire. C'est la critique qu'on peut avoir à Denk. On peut dire, bah, c'est bien qu'il y ait un parti pour les immigrés qui laissent entendre leur voix, mais ils sont vraiment dans la confrontation, donc ça n'aide pas à vivre ensemble.
Alors, s'il y a autant de partis qui veulent participer à ces élections, c'est qu'aux Pays-Bas, le système électoral il est totalement différent du système français, Christophe De Voogd. On vote une fois, il n'y a pas deux tours, et on vote intégralement à la proportionnelle.
Voilà, je crois que c'est ce qu'il faut en retenir. Même si hein, c'est un petit tout peu compliqué quand on est justement à la marge avec la distribution des restes, etc. Puisqu'il faut bien diffuser, il y a 150 députés, il faut bien diviser le nombre d'électeurs par le nombre de députés. Mais ça donne quasiment une proportionnelle intégrale, ce qui fait qu'en effet c'est très encourageant pour les entrepreneurs politiques, puisqu'on se dit qu'avec trois fois rien, on peut avoir un ou deux députés. C'est ce qui encourage, mais en même temps, tant mieux en un sens, puisque ça apporte de nouvelles voix dans le débat. Qui seront triés par le suffrage universel. Évidemment, alors là, on a un petit peu un paradoxe, c'est que c'est d'ailleurs assez intéressant de façon comparative. Le suffrage proportionnel, comme ça, le scrutin proportionnel,
ça a une conséquence,
ça a une double conséquence opposée, on va dire. La première conséquence, c'est que ça a permis notamment à Wilders d'avoir des députés depuis qu'il existe, et de nombreux députés autant qu'ils pèsent dans le pays.
Ce qui n'est par exemple pas le cas de Marine Le Pen.
Ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Voilà le paradoxe où le scrutin majoritaire a été un bouclier anti-Front National. Mais inversement, comme on a un paysage électoral très éclaté. Avec un scrutin proportionnel, Wilders ne peut absolument pas arriver au pouvoir seul, et même, il lui faudrait coaliser trois ou quatre partis, on y viendra.
Ce qui veut dire que, forcément, aux Pays-Bas, les gouvernements sont des gouvernements de coalition.
Absolument, et c'est tout le problème. Alors que le scrutin majoritaire, inversement, si vous, comme on dit, brisez le plafond de verre, eh bien, vous donne tout le pouvoir. Et là, donc, on peut avoir un effet, si vous voulez, de ciseaux entre les deux pays qui serait intéressant à observer. En tout cas, pour le moment, on y reviendra, je pense. Le PVV, d'abord, est en baisse dans les sondages, dans les derniers sondages. Faut pas
l'oublier. Le PVV, c'est le parti de Geert Wilders.
Le parti de Geert Wilders est en baisse dans les derniers sondages. Et on voit mal, puisque les autres partis ont dit qu'ils ne voulaient pas s'allier avec lui, on voit mal comment il pourrait constituer, non seulement diriger un gouvernement, mais même participer à un gouvernement.
C'est-à-dire qu'on peut avoir, au lendemain de ces élections, le mercredi soir, ou dans la nuit de mercredi à jeudi, le parti de Geert Wilders qui peut arriver en tête des élections, c'est une possibilité, hein, et en même temps qui ne pourrait pas participer au gouvernement, qui ne dirigerait pas le gouvernement et qui ne pourrait peut-être même pas y participer. C'est tout à fait possible.
Ah ben ça, c'est une habitude. En plus, les Néerlandais sont très habitués à de longues périodes de formation, à des coalitions multiples, à 3, 4, voire 5 partis. Voilà. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'on va aller vers une coalition à au moins 4 partis, qui va prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Mais encore une fois, pour les mœurs néerlandaises, c'est pas dramatique.
Mais alors, c'est assez, évidemment, pour un Français et pour un auditoire francophone assez original, parce que ces coalitions, il peut y avoir un parti de gauche, un parti de droite, un parti écologiste, voire un parti d'extrême droite ou à la marge de la droite, Peter Gizan. C'est tout à fait possible.
Oui. Ça est devenu vraiment un problème, je pense, parce que jusqu'aux années 90, il y avait trois grands blocs. C'était la chrétien-démocrate dans le centre, et ils gouvernent une fois avec les libéraux, et puis avec les travaillistes, et puis encore avec les libéraux. Donc il y avait une assez grande stabilité. Maintenant, c'est totalement éclaté. C'est de plus en plus difficile de former un gouvernement et aussi d'avoir une majorité
gouvernementale.
Il y a une étape d'ascension positive aussi. Hein. Il y a une étape d'ascension positive dans le sens où on pourrait dire que les électeurs finalement font ce qu'ils sont censés de faire. Il y a une émancipation parce que maintenant ils commencent vraiment à voter, pas pour le même parti qu'ils ont toujours voté pour, mais ils changent aussi. Dans certaines marges, évidemment. Et probablement, je suis d'accord avec Christophe De Voogd, il y a probablement un gouvernement avec 3-4 partis au moins. peut-être même un gouvernement minoritaire où il y aura des coalitions changeantes. Et donc, les partis différents qui sont dans l'opposition peuvent réclamer, voilà, c'est ça que nous aurons apporté à la politique concrètement.
Mais à la fin de l'histoire, ça peut donner un gouvernement qui a une certaine autorité, qui arrive à mener une politique ou pas?
Oui, parce que, alors, d'abord, je voudrais revenir sur un point fondamental, c'est le contexte. On a fait beaucoup de comparaisons avec la France. Mais s'il y a, comme en France, une inquiétude identitaire, une inquiétude sécuritaire, mais ne pas oublier que les Néerlandais n'ont pas connu la vague d'attentats que nous avons connue, il n'y a pas d'incertitude économique.
Il y a quand même des hommes politiques néerlandais qui ont été assassinés.
Bien sûr, mais il y a ils ne vivent pas dans le même contexte que nous. On le voit très bien d'ailleurs dans les sondages. C'est le terrorisme n'est pas pour eux une préoccupation nationale forte. Alors qu'il est, en revanche, pour eux, ils considèrent que c'est une préoccupation pour l'Europe. Mais on ne rentre pas dans ce détail. Mais n'oublions jamais qu'il n'y a pas de crise économique aux Pays-Bas. C'est-à-dire que notre fameuse crise, vous savez, en France, on dit toujours la crise européenne. N'oublions jamais que cette crise européenne, c'est d'abord une crise du sud de l'Europe. Il n'y a pas de crise économique.
On peut rappeler 5% de chômage, une croissance économique de 2% cette année, à peu de choses près, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en Europe.
Le déficit budgétaire est en dessous de 3%, etc.
Autrement dit, la dette inférieure à 60%.
Voilà, ce qui fait que le parti, et on le voit très bien la différence entre la France et les Pays-Bas, le parti actuellement au pouvoir, le parti libéral, va, à mon sens, sans doute gagner les élections, ou en tout cas être dans la grande coalition de demain. C'est évidemment pas tout à fait la situation française, nous sommes bien d'accord. Donc
on ne peut pas comparer Marc Rutte à François Fillon, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non. Le parti au pouvoir actuellement, c'est pas François Fillon.
Oui, d'accord.
À Benoît Hamon, vous voyez ce que je veux dire. À ce qui reste, en tout cas, du Parti Socialiste. Le parti sortant aux Pays-Bas est un parti fort. Le parti sortant en France n'est pas exactement un parti fort actuellement dans les sondages.
Mais les travaillistes, continue la comparaison, c'est quand même les travaillistes qui sont dupes dans les deux pays.
Oui.
Parce qu'ils sont, j'ai l'impression, enfin, je demandais à chaque personne que j'ai interviewée, pour quel parti pourrez-vous voter si vous deviez voter pour un autre parti que le PVV? Et un des partis qui n'était jamais mentionné était les travaillistes néerlandais. Ils sont perçus comme responsable des problèmes d'immigration que connaît le pays.
C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, comme un peu partout en Europe, les sociaux-démocrates sont en crise.
On annonce un échec retentissant, je crois à peu près assuré, du Parti du Travail, qui est exactement, attention au mot, c'est compliqué, mais le Parti du Travail, c'est l'équivalent de notre Parti Socialiste, parce qu'il y a aussi un Parti Socialiste qui serait plutôt l'équivalent de Mélenchon, donc il faut faire attention. Mais ce Parti du Travail, là, je pense que les carottes sont cuites. Donc c'est ça que en fait, il souffre de deux choses. D'une part, de sa politique qui a été en effet très libérale en matière d'immigration. Il souffre aussi certainement de Denk, c'est-à-dire qui vient du PVDA. Donc pour beaucoup de Néerlandais, c'est quand même des gens d'origine socialiste. Et surtout, alors ça c'est très classique en Europe, ils ont cautionné, puisqu'ils ont participé au gouvernement actuel, une politique d'austérité sévère, dont on n'a pas du tout idée en France, incarnée par le ministre des Finances, qui est socialiste aux Pays-Bas, qui est un travailliste. Et donc, c'est comme dans beaucoup de pays, ce sont toujours les socialistes qui payent les politiques d'austérité auxquelles ils participent.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous parlons des Pays-Bas. Les Néerlandais vont voter dans 3 jours, mercredi prochain. Nous sommes avec Christophe de Vogt, écrivain historien des Pays-Bas, avec Cam Damoys, sociologue et politologue, et avec Peter Gizon, qui est le correspondant à Paris du journal du quotidien De Volkskrant. Alors, on a longuement parlé de Geert Wilders, ce leader du parti populiste ou d'extrême droite. Alors, on a compris qu'il n'allait pas forcément arriver au pouvoir, même si son score électoral allait être important. Toutefois, est-ce que ces thèmes ont irrigué la campagne sans gagner? Est-ce qu'il a contaminé un peu, ou en tout cas, ces thèmes de campagne ont dominé la campagne électorale des Pays-Bas? Qui veut rebondir?
Certainement, je pense. Bien que la campagne actuelle soit un peu campagne fantôme, j'ai l'impression, parce qu'il ne se passe pas beaucoup.
Comme chez nous.
Il n'y a pas beaucoup d'affiches.
Non, pas du tout. Mais c'est vrai que Geert Wilders n'a pas une stratégie de pouvoir comme Marine Le Pen, parce que son programme le rend impossible pour les autres de coopérer. Parce que fermer toutes les mosquées, interdire le Coran, c'est impossible à cause de la Constitution.
Alors,
donc, il veut influencer, je pense.
Alors, est-ce qu'il influence les autres partis? Est-ce que, par exemple, la campagne de Mark Rutte, l'actuel Premier ministre, le Parti libéral, a été influencée par les propos, les thèmes de Kathleen Lurs qui veut rebondir comme Tom Hoyes?
Oui, mais je pense que c'est assez évident. En fait, on voit les partis, surtout à droite, les chrétiens-démocrates, mais surtout aussi les libéraux conservateurs, qui se bougent petit à petit et de plus en plus sur le terrain de Wilders, en espérant de pouvoir retirer des électeurs.
Donc là encore un point commun avec la France, entre François Fillon qui essaye évidemment de grappiller quelques voix à Marine Le Pen. Un vrai parallèle que vous mettez en évidence dans votre thèse d'ailleurs, Camille Lemoyne, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais enfin, c'est aussi la diversité, parce qu'il y a des gens de droite classique qui au gouvernemental, qui se bougent vers le FN, comme c'était le cas aux Pays-Bas. Comme il y a des gens de gauche qui se bougent vers le PVV et au Front National. Donc c'est ça très intéressant de voir, et aussi les problèmes que Wilders pourrait avoir s'il entre dans une coalition aux Pays-Bas, parce que très probablement, si c'est le cas, ce serait avec des partis de droite. Et donc ces promesses de gauche... il va avoir encore plus de mal à les réaliser.
C'est très paradoxal, et c'est pour ça que c'est toujours tout le problème de cette ambiguïté extrême droite, parce que notamment sur l'Europe, il y a entre Wilders et les autres partis, il y a aussi un fossé, en tout cas, tous les partis de gouvernement aux Pays-Bas sont pour le maintien dans l'Europe. Alors là où on voit très bien la contamination, vous dites en tout cas la transfusion des thèmes, mais d'ailleurs. C'est pas forcément malhabile, hein, puisque la preuve, Rutte est actuellement en tête dans les sondages, donc ça peut aussi marcher. Ça va aussi jusqu'à la gauche. Le Parti travailliste, par exemple, on l'oublie toujours, le Parti travailliste a été un des premiers partis à introduire des mesures de restriction de l'immigration à la fin des années 90. Donc, et il a perdu aussi des voix dans les milieux originaires de l'immigration. Et lui-même, par exemple, dans son programme, a des mesures très, très strictes de contrôle du droit d'asile dans le programme du Parti travailliste, hein, dont on n'a pas là encore, dont on n'a pas l'équivalent en France. C'est pas du tout le programme de Benoît Hamon, c'est-à-dire c'est reconduite à la frontière immédiate si vous n'êtes pas d'un pays en guerre, par exemple. Donc vous avez très globalement aux Pays-Bas un durcissement très net, on peut dire dans tous les grands partis, sur ces questions-là et aussi sur l'Europe, il faut bien le dire.
Justement, l'Europe, parlons-en. Est-ce que les Pays-Bas pourraient vivre en dehors de l'Europe? Les Pays-Bas, un grand pays ouvert, une monnaie l'euro qui ne désavantage pas l'économie néerlandaise, en tout cas il me semble. Je sais pas
au contraire.
Au contraire, me dit Peter Gison. Donc cet scepticisme, voire cette europhobie que certains partis mettent en évidence, est-ce qu'il est tenable dans un pays comme les Pays-Bas, petit, totalement ouvert sur le monde, un grand pays commerçant? Est-ce que là il n'y a pas une contradiction majeure chez les Néerlandais?
C'est peut-être pour ça que Wilders ne peut pas gagner. Les Néerlandais sont pragmatiques. Hein. Faut pas les prendre pour des europhiles inconditionnels. Mais ils savent qu'ils ont besoin. Tous les sondages le montrent. Hein. Ils savent qu'ils ont besoin de l'Europe, comme du monde. Ils sont très ouverts à la mondialisation, à la différence des Français. Ils savent, ils sont à 77% en faveur de l'euro. Donc déjà, les chances de Wilders sont déjà comptées. Et sur tous les items européens, alors, ils ne sont pas euro-enthousiastes, mais ils sont euro-pragmatiques et ils disent, par exemple, qu'en matière de liberté de circulation, les Néerlandais ne peuvent pas être protectionnistes. Ça n'a aucun sens. Le pays vit de l'échange international et notamment de l'échange avec l'Allemagne. Rotterdam, c'est le premier port allemand, faut dire disons les choses carrément. Ce sont deux économies qui sont littéralement en fusion. C'est pas du tout des échanges internationaux. Donc les Néerlandais le savent, puisqu'ils ont une culture économique importante, et c'est là qu'on mesure l'impasse et, à mon avis, pour moi, l'impossibilité d'un gouvernement Wilders ou même dominé par Wilders.
Alors néanmoins, quel peut avoir l'impact pour ces élections de ce qui se passe dans le reste du monde? Alors si évidemment les économies néerlandaises et allemandes sont très intégrées, il y a aussi un cousinage très profond entre les Néerlandais et les Britanniques. Les Britanniques sont en train de quitter l'Union européenne. Quel impact pour les Néerlandais au cours de ces élections? Et puis quel impact l'élection de Donald Trump? Les Pays-Bas sont aussi un pays très atlantiste qui veut rebondir.
Je pense que c'est encore trop tôt de conclure, quoi, de conclusion. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 2005, c'était les Français et les Néerlandais qui ont eu un référendum et qui ont voté non. En France déjà,
ce sont les deux seuls pays qui ont voté non.
Exactement.
Les Luxembourgeois et les Espagnols avaient voté oui pour ce même référendum constitutionnel.
Donc moi je suis pas entièrement sûr que d'ici 10 ans ça peut encore basculer aussi pour l'euro. Et faut pas confondre Europe et Union européenne. Mmh. Ce sont des entités différentes quand même.
Je suis d'accord. Parce que ce qui peut être très difficile pour l'image de l'Europe aux Pays-Bas, c'est s'il faut encore sauver la Grèce et peut-être l'Espagne et l'Italie.
Et la France.
La France peut-être. Mais s'il y aura besoin d'un transfert massif d'argent du nord vers le sud de l'Europe. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera très difficile. Il y a une vraie montée de l'euroscepticisme. Et ça dépend aussi, évidemment, ce que l'Allemagne...
Quintamus, Christophe Devaux disait qu'un exit, c'est-à-dire un départ des Pays-Bas, des Néerlandais de l'Union européenne, serait envisageable à 10 ans, à 15 ans.
Tout se tient, hein, il faut bien comprendre, c'est le carrefour de l'Europe. C'est-à-dire tout se tient. C'est-à-dire que s'il y a un Frexit, par exemple, alors là, que se passera-t-il? Ce qui est très clair, et ça c'est une constante, c'est que les Néerlandais sont toujours dans le sillage allemand sur ces questions, sur toutes les questions d'ailleurs qui touchent à l'Europe et à l'économie. Ils sont dans le sillage allemand. Et je crois qu'ils feront ce que fera l'Allemagne.
L'Allemagne a plus d'influence que le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni, il y a une vieille... Et comme avec les États-Unis d'ailleurs, il y a des liens historiques et personnels considérables. Mais l'économie néerlandaise... C'est pas la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. Et je pense que c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que si la France, plutôt renverser le raisonnement, si la France prenait ses distances, ou en effet s'il y avait une crise majeure dans le Sud, là, les Néerlandais, qui encore une fois, je vous dis, sont pragmatiques dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire pas de cadeau à l'Europe, a priori, ils sont européens dans la mesure où ça sert leurs intérêts. Si ça dessert leurs intérêts, alors là, il y aura de sérieux problèmes.
Mais est-ce que forcément, à un moment ou à un autre, les intérêts des Pays-Bas sont forcément européens? Un pays relativement petit, commerçant, forcément ouvert, qui n'existe qu'à travers le commerce et l'industrie, forcément, il a besoin d'exporter, il a besoin de vendre, il a besoin de commercer.
Mais il y a le vaste monde. Les Néerlandais répondent, c'est toujours très frappant, que leur vrai horizon, toujours, c'est le monde. Il n'y a pas de peur de la mondialisation aux Pays-Bas. C'est pas du tout comme en France. Sur certains sujets, ils répondent que la bonne échelle, c'est le monde, pas l'Europe.
Par exemple, dans quel domaine?
Dans le domaine, par exemple, de tout ce qui est économique, encore une fois.
L'Europe est quand même très important en termes de commerce. Je pense que la plupart du commerce néerlandais
absolument.
Dans l'Europe.
Non, mais c'est pour ça qu'on est tous d'accord, je crois, là-dessus. Ouais.
Trump, comment on a réagi au lendemain de l'élection de Donald Trump aux Pays-Bas? J'imagine surpris comme partout. Mais quelles conséquences?
On a fait une vidéo extraordinaire. Les Néerlandais ont lancé une vidéo qui a été copiée dans le monde entier, qui a fait rire, y compris les Américains, et qui était extraordinaire. Non seulement sur Trump, mais sur le rapport des Néerlandais aux États-Unis, c'est-à-dire un rapport très... C'était plein d'humour, c'est très drôle, où ils expliquent aux Américains, écoutez, quand même, on a besoin de vous. Et si l'Amérique doit être première, il faudrait que les Pays-Bas soient second.
Donc, Néerlandais second.
Ouais, oui, c'est ça, exactement.
Ce regard que les Néerlandais ont sur le monde, et donc qui dépasse l'Europe, il s'explique comment? Comment on explique ce regard? Parce que le pays a eu des colonies en Indonésie, en Amérique. Comment on explique ce regard mondial
Oui, mais c'est un pays... commercial et maritime depuis toujours. Donc je pense que ça explique aussi par rapport encore à la France, la différence. La France est un pays continental, aristocratique, militaire.
Alors que les Pays-Bas sont un pays...
Commercial, maritime.
Maritime, commercial.
Il faut être fier au monde.
Et bourgeois. Oui. C'est-à-dire que la noblesse est moins importante aux Pays-Bas, dans l'histoire des Pays-Bas, que ne l'a été la bourgeoisie.
Les grands hommes sont les grands marchands.
C'est ça.
Et les grands marchands, forcément, ils regardent l'Europe dans un premier temps et le reste du monde dans un deuxième temps.
Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est un pays très, très intéressant. C'est pour ça que moi, j'appelle toujours un faux petit pays. Vous avez rappelé la puissance puissance de son économie, mais il faut oublier, en effet, faut pas, ne pas oublier son passé colonial. L'Indonésie, c'est pas rien comme colonie, et pas seulement ça, l'Indonésie, c'est aussi des fortes minorités hollandaises ou néerlandaises en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, d'où les liens. On dit toujours que Roosevelt, c'est une famille d'origine néerlandaise. Hein. C'est que les liens avec le vaste monde, dans l'imaginaire néerlandais, dans, on le voit dans la littérature néerlandaise, on le voit dans le cinéma néerlandais, le lien avec le vaste monde sont beaucoup plus importants que pour nous Français, par exemple.
Et donc ça s'illustre notamment par la puissance de la compagnie aérienne néerlandaise, KLM, qui est démesurément grande par rapport à la taille du pays. On peut rappeler 17 millions d'habitants, des liaisons dans le monde entier, et l'aéroport d'Amsterdam. Schiphol, qui est un des grands hubs européens, un des plus grands aéroports européens. Mm-hmm. Ça s'explique aussi. Les avions ont remplacé les bateaux.
Souvent, les Néerlandais sont aussi les premiers investisseurs dans le monde. Enfin, c'est la 13e économie mondiale, alors pour 17 millions d'habitants. C'est la 6e économie européenne. Et quand on regarde le commerce extérieur, c'est toujours dans les premiers rangs du monde. Et c'est pour ça qu'il faut aussi rappeler que c'est un pays fondateur de l'Union européenne, on n'a pas encore rappelé, c'est un des 6, et que ce qui se passe là-bas aux Pays-Bas, le 15 mars, la semaine prochaine, c'est quelque chose qui est très important pour le devenir de l'Europe aussi, parce que c'est un pays qui a une autorité quand même morale et une pratique européenne vraiment ancienne.
Même si elle est pragmatique.
Même si elle est pragmatique.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Sur votre ordinateur RFI.fr ou via votre smartphone ou encore votre tablette, vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres. On reste en contact bien sûr via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Amsterdam, à La Haye ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Appelez-nous, exprimez-vous.